Réplique, la fin du débat avec Pierre Nora. Pour ceux qui, comme moi, n'étaient pas dans le secret des dieux, l'arrêt de la revue Le Débat a été un choc. Nous n'avions absolument pas vu venir le coup. Nous venions de recevoir ou d'acheter le numéro des 40 ans et le sommaire avait fière allure. Les articles, nombreux et fournis, portaient sur le changement de monde, le changement d'économie, le changement de politique, le changement de société, le changement de culture. Le changement comme maître mot. C'était bien la preuve que la revue ne regardait pas dans le rétroviseur, qu'elle ne se complaisait pas, comme d'autres, dans la nostalgie, mais s'interrogeait avec une passion intacte sur le sens de ce qui advient. Alors pourquoi diable arrêter ? C'est la question que tout le monde pose au fondateur et directeur du débat, Pierre Nora. Je la pose à mon tour en la complétant. On comprend, Pierre Nora, qu'après 4 décennies et 210 numéros, vous choisissiez de tourner la page pour vous reposer, ou plutôt, comme vous semblez en pleine forme, pour vous consacrer à des travaux personnels. Mais pourquoi n'avoir pas préparé votre succession? Pourquoi n'avoir pas passé le témoin à Marcel Gauchet, votre fringant cadet, qui se serait lui-même entouré d'une équipe de jeunes et dynamiques collaborateurs? Pierre Nora.
Eh oui, cher Alain, vous posez d'un coup toutes les questions que je n'ai pas cessé de rouler dans ma tête pendant des mois avant de prendre cette décision avec Marcel Gauchet, qui a en fait beaucoup de raisons, qui tiennent à la fois à l'entourage culturel, qui tiennent aussi à ma situation personnelle, et qui tiennent aussi au fait, pour répondre à votre dernière question, que Marcel Gauchet, à qui j'ai posé évidemment la question de confiance, les yeux dans les yeux plusieurs fois, ne voulait pas continuer la revue si je l'arrêtais. C'est pas une revue qu'on fait tout seul. Une revue, c'est un échange d'idées permanent, c'est une collaboration incessante de tous les jours, presque de tous les instants. Et il, au fond, ne voulait pas, me disait-il, la faire sans moi après 40 ans. Ça m'a touché comme un vieux couple qui est fidèle à lui-même. Voilà.
Oui, mais si nous sommes nombreux à être très tristes oui. de la fin du débat, c'est que nous sommes amenés à nous dire que cet arrêt est révélateur de la situation intellectuelle aujourd'hui en France. Donc, oui. j'ai intitulé l'émission « La fin du débat », mais au deux sens du terme, la fin de la revue « Le débat » et peut-être la fin ou la crise de la réalité du débat. Je me souviens du numéro inaugural et du titre. Le débat, ça fait référence en s'y opposant à l'idée de combat. Vous dites qu'un âge se termine, l'âge sartrien de l'engagement, au sens quasi militaire du terme, on s'engage pour une cause et on fait la guerre. C'est cette idée, d'ailleurs développée par Alain Badiou dans son livre Le Siècle. La guerre, disait Clausewitz, c'est la politique continuée par d'autres moyens. Tout d'un coup, la formule s'inverse. La politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. On mène une guerre idéologique impitoyable contre des adversaires qui se mettent en travers de la révolution, c'est-à-dire de l'émancipation du genre humain. Et tout d'un coup...
En finir avec, c'était
en le finir avec, voilà. En finir avec, et vous dites non. C'est pas vrai, on va réunir les compétences, on va réfléchir ensemble sur la complexité du monde. Et évidemment, la question qu'on se pose aujourd'hui, le débat, au sens où vous l'entendez, au sens de conversation, n'est-il pas justement en train de céder la place? Les 40 ans, n'était-ce pas une parenthèse enchantée? La vie intellectuelle ne revient-elle pas aujourd'hui sous le paradigme de la guerre, même si le communisme est mort. Pierre Nora.
Il revient, mais sous des formes très différentes. Mais d'abord, ce que je voudrais dire, que vous venez en fait déjà d'avoir touché, c'est le moment des années 1980 et les raisons pour lesquelles j'avais appelé le débat « le débat ». C'est au fond, parce que jusque-là, on avait beaucoup vécu sous l'effet à gauche de l'idée révolutionnaire et qu'elle s'épuisait dans les années 1980. Or, la fin de l'idée révolutionnaire, c'était la fin d'un dualisme et d'un face-à-face exterminateur, et les intellectuels, au fond, se ralliaient à la démocratie. Ils savaient qu'ils vivraient avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Et à ce moment-là, tout change parce que on parle. On se parle. Et on débat précisément les uns avec les autres. La démocratie, c'est le débat. Et donc, le titre signifiait cette puissance de la démocratie. Et aujourd'hui, effectivement, les conditions ont beaucoup changé, dans la mesure où ceux qui ne veulent pas le débat ne le font pas au nom d'une cause unique et collective qui les projetterait dans un universel particulier, dans un universel vrai, mais en raison de carapaces identitaires et particulières qui les enferment les uns sur les autres et les uns dans les autres. Alors, c'est pas la même, si vous voulez, type de volonté de non-débat dans les années 80 et aujourd'hui. Mais vous avez raison, une parenthèse se ferme. Et elle se ferme pas seulement sur le plan intellectuel. Je pense que ces 40 ans ont constitué une forme d'unité historique que notre numéro de 40 ans, précisément, vous le rappelez, essaye de dominer dans son ampleur, et que, si j'ose dire, notre décision était déjà prise avant le Covid, mais que la crise du Covid vient ponctuer en écho cette décision, lui donner davantage de sens, parce que d'autres problèmes se poseront, on verra le monde un peu différemment. Alors vous me direz, c'est peut-être le moment de précisément faire le combat. Alors écoutez, je n'ose pas dire comme Chateaubriand, si vous voulez, auquel je pense, mais à la fin des Mémoires d'Outre-Tombe, quand il a fait le tableau du monde qui vient et qui dit « à vous, messieurs », eh bien, qu'il le fasse. Simplement, je ne suis pas sûr qu'il y ait de messieurs.
Mais voilà, la question se pose. Vous dites dans l'éditorial du numéro des 40 ans, où vous annoncez l'arrêt de la revue, oui. Nous avions, somme toute, vécu la sortie de l'âge révolutionnaire, tragiquement simpliste, pour entrer dans le monde de la complexité généralisée.
Oui.
Le monde reste complexe, la question du Covid aussi, oui, est très complexe, mais l'angoisse qu'on peut avoir, c'est de penser que nous retournons à l'âge de ce que Burckhardt appelait les terribles simplificateurs.
Oui.
Il n'y a pas de messieurs, mais à la place des messieurs, peut-être y a-t-il à nouveau des terribles simplificateurs. Alors je vais préciser les choses. Quand vous avez dit le débat plutôt que la guerre, j'ai pensé à une définition de l'engagement complètement oubliée au profit de celle de Sartre. C'est une définition de l'engagement donnée par Paul-Louis Landsberg dans un article des années 30 de la revue Esprit. Encore une revue, Paul-Louis Landsberg, intellectuel juif converti au catholicisme, venu d'Autriche en 1933 et déporté d'ailleurs pendant la guerre. Et il dit « l'engagement, c'est une décision pour une cause imparfaite ». Il dit « l'imperfection protège la défense de la cause de tout fanatisme ». C'est absolument magnifique.
Oui.
Et on se dit, après tout, c'est Landsberg qui prend sa revanche sur Sartre, avec notamment le débat, mais aussi avec commentaires et toutes ces revues qui se parlaient. Parce que je me souviens d'un débat, si j'ose dire, les premières rencontres de Pétrarque organisées par Jean-Louis Borzex, qui était alors directeur
tout
de France Culture.
Tout à fait, oui.
Et j'ai rencontré tout le monde à ce
moment-là. Vous me rappelez des souvenirs lointains.
Lointains, mais j'ai rencontré Philippe Reynaud, oui. J'ai rencontré Pierre Manant.
Moi, je pense que c'est là qu'on s'est revus.
Non, oui, on s'était déjà vus. On s'était déjà vus, mais il y avait, ça discutait dans tous les sens. Oui. Commentaire, le débat.
Oui, c'est une chose qui
choque. Ça crépitait.
C'est une chose qui choquait les esprits, si j'ose dire, blocs, les esprits uniques. C'est la preuve que il y avait plus de débat possible, c'est que les revues se parlaient entre elles et qu'on retrouvait même les mêmes signatures quelquefois dans Esprit, Commentaire ou Le Débat ou éventuellement même Les Temps Modernes, ce qui était moins vrai. Et c'était la preuve que on ne défendait pas de cause. Voilà.
Oui, c'était la preuve qu'on ne défendait pas de cause. Et justement, je trouve qu'aujourd'hui, le communisme est bien mort.
Oui.
Mais nous assistons,
c'est vrai,
au retour des causes parfaites.
Tout à fait.
Le féminisme est une cause parfaite, puisque oui. L'alternative, c'est le sexisme ou la misogynie. L'antiracisme, et nous y reviendrons, est une cause parfaite, puisque l'alternative, c'est à peu près l'apologie de crimes contre l'humanité. Oui. L'écologie, telle qu'elle se formule aujourd'hui, l'écologie Greta Thunberg,
oui.
Qui n'est pas la... Ce que moi, personnellement, j'entends par la cause écologique, c'est aussi une cause parfaite. C'est « How dare you ?» Comment osez-vous saccager la planète ? Tout est simple, tout est binaire. Et je veux dire, évidemment, là, on se dit, s'il n'y a que des causes parfaites, le débat, au sens où vous l'entendez, la cause de la vérité et la cause commune, eh bien, le débat devient, sinon impossible, du moins de plus en plus difficile.
C'est-à-dire, s'il n'est pas difficile, du coup, les intellectuels... parlent aux intellectuels au lieu de parler à tout le monde, si j'ose dire. On ne se parle plus qu'entre gens qui sont d'accord, vous et moi. Car au fond, réplique, si j'ose dire, votre émission est l'équivalent de ce qu'a été le débat, de ce qu'est le débat. Et donc je prie pour qu'elle reste. Pour revenir au fond de la question, ces radicalités dont vous parlez, elles, encore une fois, sont neuves, elles sont nouvelles, et non seulement elles ne supposent pas le débat, mais elles le refusent. Elles sont enfermées dans ce qui n'est pas le domaine de la raison. Or, le débat, par définition, c'est la raison. Et c'est l'histoire qui est la raison suprême, si j'ose dire. Alors, on pourrait dire encore une fois... c'est le moment de rester entre nous. C'est vrai que la disparition du débat va faire des orphelins, disons des gens tristes de ne pas pouvoir s'exprimer et d'abord d'avoir moins de lieux et d'organes d'expression qui correspondent à leurs vœux. Ça, c'est certain. J'ai été conscient de la responsabilité que je prenais. Mais je ne l'ai pas conçu comme une démission, je l'ai conçu comme une alerte.
En effet.
Et si je l'ai voulu, si secrète et si volontaire, ou autant dire spectaculaire, si j'ose dire, elle l'est encore plus que je ne le croyais qu'elle ne serait, c'est précisément pour provoquer cette réaction générale d'alerte. Et de compréhension. Et je crois que si le débat a eu cet enterrement, si j'ose dire, de première classe, c'est aussi à cause du titre, le débat, c'est que, comme vous le disiez au début de l'émission, la fin du débat avec un grand D exprime un peu ou pose le problème de la fin du débat avec un petit D. C'est ça qui a donné, si vous voulez, une sorte de centralité à la question grave que pose effectivement, je ne le nie pas,
l'arrêt de la revue.
Oui.
Oui, et en effet, alors, une précision, je m'efforce à réplique d'inviter des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Et j'espère que ça pourra continuer, et parfois même des gens qui défendent ce que j'appelle des causes parfaites. Et d'ailleurs, je montrerai dans la suite de l'émission que j'ai des petits désaccords avec vous aussi. Mais justement, restons-en à ce climat de radicalité et même, dirais-je, de fanatisme. Dans un livre très intéressant, « Liberté d'inexpression », Anne-Sophie Chazot rappelle ce qui est arrivé à Gauchet,
oui,
en 2014.
Oui.
Le boycott des rendez-vous de l'histoire de Blois, réclamé par Geoffroy de la Gannerie et
oui,
l'écrivain
oui.
Et Édouard Louis,
oui,
parce que les rendez-vous de Blois portaient sur la révolte, et lui, c'était un rebelle contre les rébellions et les révoltes.
Oui.
Et donc, on disait, bon, il ne faut pas que...
Il n'a pas sa place, là.
Et surtout, c'était cette déclaration d'Édouard Louis que reproduit Anne-Sophie Chazot, que je trouve extrêmement intéressante, parce que très révélatrice du climat dans lequel nous vivons, et qui concerne pas seulement les revues, mais même la presse. La liberté d'expression, c'est connaître les questions que l'on peut poser et les questions que l'on ne peut pas poser. Il y a des questions qui ne sont pas des questions, mais qui sont des insultes. Or, vous savez aussi que dans la presse, il y a sans cesse des appels, en quelque sorte, à l'interdiction professionnelle de journalistes
Absolument.
Qui posent les mauvaises questions, qui les posent mal parfois. Mais surtout, on dit, mais pourquoi sont-ils là? Pourquoi sont-ils présents sur les plateaux de télévision? Il faut les faire disparaître. Enfin bon,
alors,
c'est étrange de voir la presse elle-même, qui brandissait le drapeau de la liberté d'expression, se retourner contre ce principe vital pour elle, afin précisément de réduire cette marge de liberté.
En effet, vous avez raison, mais il faut peut-être ajouter que le nombre de ces actifs de la radicalité est petit, mais il n'exprime pas la majorité, si j'ose dire, qui n'est pas que silencieuse d'ailleurs, mais qu'on n'exprime pas la majorité. Simplement, ils ont une très grande influence de terrorisme sur la presse, qui est elle-même globalement, dans ce qu'elle a d'intellectuel, de gauche et d'extrême gauche, et donc est très sensible à cette pression, et une partie de l'opinion qui y voit enfin, si j'ose dire, renaître des formes de causes liées à l'oppression de ces marginalités dont vous parlez.
C'est pas simplement les marginalités. Alors, là, j'ai apporté le livre de François Furet, Le passé d'une illusion. Et il y a un moment très intéressant qui nous concerne tout à fait sur l'antifascisme.
Si oui.
L'antifascisme post-mortem, après l'écrasement du nazisme et du fascisme, l'antifascisme a eu une vie très intense. Et il dit ceci, l'antifascisme, avec ce mot, tout est dit de ce qui va faire le rayonnement du communisme dans l'après-guerre. Les communistes, d'ailleurs, ne s'y sont pas trompés, qui n'ont cessé de militer sous ce drapeau de préférence à tout autre. Ils n'ont plus jamais voulu d'autre territoire politique à leur action que cet espace à deux dimensions, ou plutôt à deux pôles, dont l'un est figuré par les fascistes, l'autre par eux-mêmes. Donc, qui n'est pas avec nous n'est pas seulement contre nous, il est fasciste. Et les compagnons de route ont suivi cette voie, mais il y a eu un changement. C'est-à-dire, l'antifascisme n'a pas disparu, on parle bien des antifas, même aux États-Unis, ils sont très très présents, notamment à Portland, et les Black Blocs aussi se disent antifas. Mais il y a eu un tournant, qui est, si je veux dire, le tournant antiraciste. Et ça, une date, à mon avis, cruciale, c'est la parution du livre de Daniel Lindenberg, Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires.
Tout à fait.
Parce que il s'en prend, peut-être à raison, à Oriana Fallaci, son livre La rage et l'orgueil. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit que sa violence a un seul précédent, Céline parlant des Juifs, La rage et l'orgueil. Hein, et il dit, et Houellebecq, c'est la même chose. Houellebecq, c'est quelques pages consacrées à l'islam dans Plateforme, il n'avait pas encore lu Soumission, eh ben, c'est Céline. Et Pierre Manant est coupable de cette même diabolisation de l'islam et des Arabes.
Donc si je me souviens bien, vous aussi,
ah oui,
en tête.
J'en suis. Non, moi, c'est autre chose. Je dénonce une vague d'antisémitisme qui n'existe que dans mon fantasme. Et je suis le Podoretz français, Podoretz intellectuel américain,
oui,
soutien d'Israël, etc. Donc, mais Manant est un peu la cible principale. Mais surtout, c'est cette idée-là. C'est-à-dire que, si vous voulez, la nouvelle cause parfaite, c'est l'antiracisme, et vous dénoncez le problème de l'islam, vous êtes raciste. Donc il y a même des réalités dont il ne faut pas parler,
oui,
parce que, justement, ça vous met dans le mauvais camp. Comme si Le monde commun lui-même disparaissait. S'il y a des faits de droite et des faits de gauche, on peut plus se parler. Si on considère que le séparatisme, par exemple, islamique, c'est un fait, ce n'est pas un fait, mais c'est une opinion dégradante, la distinction des faits et des opinions disparaît, le dialogue n'est plus possible. Mais je trouve que cette prise de relais de l'antifascisme par l'antiracisme est très révélatrice, qui fait que nombre, d'ailleurs, de débats intellectuels se règlent aujourd'hui à la 17e chambre.
C'est vrai. Vous définissez une situation française, mais vous avez fait allusion deux fois à l'Amérique.
Oui, absolument.
Or, c'est capital. C'est aux États-Unis que tous ces mouvements à l'américaine ont pris une ampleur qui couvre la plupart des campus et qui risque de venir en France, comme toutes les modes américaines qui mettent un certain temps à venir en France et y arrivent. Or, là, ce qu'ils appellent là, pour aller au bout des choses, la cancel culture, c'est-à-dire l'extermination de la culture, la volonté précisément de, c'est où on se sent, où on a des, nous aussi qui sommes assez vieux pour avoir des relents de Goebbels dans la tête, si j'ose dire, quand il disait, quand on parle de culture, je sors mon revolver.
Oui, alors,
eh ben, c'est la cancel culture à sa façon, c'est l'anti de ce que voulait Hegel, Goebbels, mais tout ça est aux États-Unis et d'après ce qu'on y dit et ce qu'on y voit, l'atmosphère culturelle de beaucoup de campus est devenue à ce point irrespirable. Les programmes officiels changent, comme vous savez, et sont expurgés des passages dans la littérature classique et même ancienne, qui risquerait de choquer les identités. On va jusqu'à prétendre à certains moments que se regarder dans les yeux quelqu'un qui n'a pas votre couleur de peau ou est une insulte et doit être protégé. Donc il y a des espaces de sécurité.
Safe space
dans les universités. Et cette atmosphère, je crains qu'elle ne envahisse la France, ou qu'elle devienne déjà en France, et qu'elle rende l'atmosphère intellectuelle, disons, extrêmement pénible.
Voilà, mais la cancel culture, c'est aussi l'idée qu'on... C'est l'annulation de l'adversaire transformé en ennemi.
Voilà.
Ça existe en France, déjà, puisque j'en ai parlé...
Vous en avez été victime, vous-même.
Sylvain Brzezinski, plus que moi.
Brzezinski à Bordeaux.
À Bordeaux. Moi, j'ai pu quand même...
À Sciences Po, quand même.
J'ai pu quand même donner ma conférence. On a changé le lieu et j'étais sous protection policière. Sylvain Brzezinski a été obligé d'annuler une conférence... La présidence de l'université de Bordeaux, je crois, a annulé une conférence qui portait sur la reproduction... La procréation à l'ère de la reproductibilité technique, c'est-à-dire que la mise en question de la GPA et même de la PMA est interdite par certaines militantes féministes.
Oui.
Donc la cancel culture existe déjà et je ne suis pas sûr de pouvoir moi-même donner une conférence aujourd'hui à l'école des hautes études en sciences sociales ou à l'ENS. Je pense que ce ne serait plus possible.
Où le malheureux Prochasson, directeur, a beaucoup de mal à lutter contre et où j'ai reçu personnellement, par exemple, des hautes études auxquelles j'ai fait partie pendant toute ma carrière pratiquement, je reçois maintenant des lettres à écriture inclusive sur papier officiel.
Voilà, oui, écriture inclusive.
C'est quand même très significatif que dans une institution de haute culture, on s'arroge le droit et même on l'impose d'écrire dans une écriture qui n'est pas française.
Bon, alors... Là, nous sommes très complices. Ça risque de m'être reproché par certains auditeurs. Alors, je vais peut-être faire...
Non, nous ne sommes pas complices, mais disons-le très fermement. Des organismes, comme je viens de le dire, comme le débat, sont très comparables à ce que vous faites, Alain, par le niveau de culture, par le maintien... Et vous le faites depuis 30 ans, vous aussi.
Oui, c'est vrai.
Donc, il y a une sorte de, si vous me permettez, de parallèle que je peux faire entre nous, comme j'ai fait à un certain moment, avec la cessation de apostrophe de pivot, le sentiment que quelque chose qui nous était parallèle était en train de disparaître.
Oui, c'est vrai.
Donc, vous restez tout seul, sachez-le.
Non, pas tout à fait tout seul. La revue commentaire continue.
Existe, grâce à
elle
Dieu.
Existe.
Mais non, j'insiste. J'insiste. Il y a une différence très profonde, précisément, qui nous lie à réplique, mais qui nous différencie de commentaire, que j'aime beaucoup et que j'estime beaucoup. C'est quand même, je crois que des revues qui elles-mêmes ont une cause que je ne juge pas, mais bonne ou mauvaise, peuvent continuer parce qu'elles ont un public captif, et qui est très important, qu'il soit d'ordre catholique de gauche, qu'il soit d'ordre comme esprit, qu'il soit descendant du personnalisme chrétien de d'Emmanuel Mounier, qu'ils aient comme commentaire une sorte de conservatrice de centre-droit aronien dont ils sont l'héritier. Tandis que le débat, et c'est là que je rejoins réplique, était ouvert à une forme de culture encyclopédique, n'avait pas de public captif comme vous n'avez pas, vous, un cercle d'auditeurs fermé, mais que vous cherchez au contraire à les ouvrir à tous les contradicteurs même du problème. Donc, cette espèce de liberté, de volonté d'encyclopédie, d'horizon culturel sans frontières,
c'était sans équivalent.
Voilà.
Oui. Alors, je rappelle quand même que Jean-Claude Casanova a pris une décision différente de la vôtre, puisqu'il continue commentaire, mais il y a deux nouveaux directeurs qui l'entourent et qui l'aident, Philippe Reynaud et Philippe Trénard. On verra ce que ça donne. Mais c'est la preuve, en tout cas, qu'il ne veut pas arrêter la revue. Et moi, je regrette aussi amèrement que le débat s'arrête. Non, mais que le débat s'arrête justement après ce que vous venez de dire, parce que dans une revue annuelle, Le Messager européen, que j'ai été obligé d'arrêter parce que elle n'avait pas l'écho dans les médias que je souhaitais pour augmenter le nombre de lecteurs, une revue dont je suis plutôt fier, qui a duré 10 ans, nous avions fait, à l'époque avec Daniel Salnave, un numéro ou un dossier sur le politiquement correct aux États-Unis. Or, c'était 90, 91. Le politiquement correct a pris des proportions inouïes avec les safe space, les trigger warnings, etc. Et une enquête sur le politiquement correct américain dans le débat aurait été particulièrement bienvenue.
On l'a fait.
Ne fût-ce qu'à cause des effets qu'elle est en train d'avoir en France. Puisque l'américanisation de la France
passe
peut-être
plus.
Mais
nous l'avons fait dans certains numéros.
Oui, c'est vrai.
Mais je voudrais ajouter quelque chose, Alain, pour moi très important. C'est que le débat a marché sur deux pieds, la marque, le débat. Elle a marché sur la revue qui était le vaisseau amiral, mais elle a aussi marché sur la collection du débat. Elle était moins visible parce que la couverture ne l'individualisait pas et qu'elle se fondait dans la production générale de la maison Gallimard. Mais elle a publié 80 livres aujourd'hui qui sont et qui expriment, qui sont un prolongement du débat, qui expriment l'esprit du débat, dont nous avons même fait la liste à la fin de ce dernier numéro. Nous souhaiterons profondément nous appuyer sur la collection du débat, la transformer elle-même, parce que une des raisons aussi qui touche très profondément l'existence même de revues du type d'idées générales comme le débat, et qui se veut elle-même une revue très générale. C'est la consultation numérique de l'article individuel qui n'est plus inséré dans un esprit général de la revue. Pour moi, c'est le contraire même de l'esprit de la revue. Et la généralisation de la consultation en ligne d'un article signe la mort de ce type de revue que je crois quand même condamné. Même si on refait autre chose et qu'il se passe d'autres choses. Mais ce type de revue qui dure depuis le 19e siècle en France et qui est une tradition française qui mélange la littérature, la politique, les arts et les idées, qui sont un laboratoire de la littérature générale et des pensées, ça, cette tradition très importante, elle est en partie tuée non pas par les radicalités, mais par la technologie.
Par la technologie.
Et donc, nous voudrions, en particulier en faisant davantage revivre et individualiser par la couverture cette collection Le Débat, pouvoir publier un article unique qui aurait été trop long pour Le Débat, une discussion qui aurait fait 120 ou 150 pages, de petits formats qui répondent davantage à la curiosité ou à la demande publique. Ça, j'y insiste très fortement, parce que le débat n'est pas mort à travers la collection.
À travers la collection. Et en même temps, pour une certaine gauche radicale, je pense notamment à Mediapart, je pense parce que la collection Le Débat est une circonstance aggravante, si vous voulez. Elle alourdit votre dossier.
Alors, oui.
Cette collection a commencé par sur les chapeaux de roue, par le magnifique livre de Régis Debray, À demain de Gaulle.
Oui.
On y trouve
Bernard Lewis.
On y trouve aussi des livres, notamment Laurent Dubreuil, La dictature des
absolument
identités.
Nous parlions tout récemment.
Nous parlions du politiquement correct. Mais, et ça, franchement, ça vous sera reproché, vous avez publié 5 livres très intéressants, je dois le dire, d'Hervé Juvin. Sauf que Hervé Juvin a adhéré au Rassemblement National. Donc,
oui.
Le débat, attention, voilà, vous êtes,
oui,
vous
oui
êtes passé de l'autre
oui
côté,
oui,
vous avez
écoutez,
franchi la ligne.
Je dis un mot de l'Hervé Juvin, si vous voulez.
Non, mais...
Hervé Juvin est un homme exceptionnel, que j'ai connu par Marcel Gauchet d'ailleurs, et qui était presque un autodidacte, devenu un homme d'affaires, cependant très cultivé, amateur de culture et ne voulant un intellectuel, un vrai, à la fois homme d'affaires et intellectuel. Je lui ai trouvé beaucoup de vivacité intellectuelle. Et il a écrit sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec la politique et qui sont ce que devient par exemple le corps dans la civilisation contemporaine par toutes les prothèses qu'on peut lui faire ou qu'on peut lui faire faire. Donc il a écrit 3 livres comme ça et puis j'ai senti qu'il y avait quelque chose, et dans les conversations que j'avais avec lui, une tentation de rapprochement vers, qu'il avait ses tentations, ça le regardait à partir du moment où il écrivait des choses qui n'avaient absolument rien à voir. Et le jour où il s'est engagé, il a eu le fair play de nous téléphoner et de vous dire, écoutez, j'ai sauté le pas. Je sais que c'est pas votre côté. Je voulais vous dire au revoir et vous remercier de ce qu'on a fait ensemble. Et on se retrouvera peut-être un jour. Mais d'ailleurs, je ne suis pas au Front National. Je reste marginal. Mais en fait, comme il est très intelligent, il est devenu, je crois, depuis la disparition de Philippot,
un conseiller. Oui, alors simplement, il avait écrit des livres qui affrontait la problématique du choc des civilisations, très
oui
intéressant chez
oui
vous,
oui,
le renversement du monde, politique de la crise, la grande séparation pour une écologie des civilisations.
Et je vais vous faire même, à propos du Juvin, une confession assez drôle. Sur un de ses articles ou un de ses livres, j'ai reçu un coup de téléphone de l'ex-premier ministre socialiste, Jospin, me disant qui est cet homme très intelligent qui vient d'écrire cet article. Mais vraiment, il est exceptionnel, j'aimerais le connaître. Et nous avons déjeuné ensemble.
Ah ben voilà. Voilà une confidence intéressante.
Et qui sera, si elle était connue, reprochée bien entendu à ce malheureux Jospin.
Évidemment. Alors, simplement là, je voudrais prolonger la réflexion en citant un des plus beaux articles que vous avez publié dans Le Débat. D'ailleurs, vous le dites vous-même dans un de vos entretiens. Un article que je cite souvent, peut-être un peu trop, pour certains, « Un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale » de Milan Kundera. C'était le numéro 27 de novembre 1983. Et voilà ce que je lis. Donc, novembre 1983. Encore ébranlé par cet événement triplement tragique qui était l'invasion de Prague, tragique parce que c'était la Russie, c'était aussi la disparition de la culture, etc. Je suis venu en France et j'ai essayé d'expliquer à mes amis français le massacre de la culture qui eut lieu après l'invasion. Imaginez, on a liquidé toutes les revues littéraires et culturelles, toutes sans exception. Cela ne s'est jamais passé dans l'histoire tchèque, même pas sous l'occupation nazie pendant la guerre. Or, mes amis me regardaient avec une indulgence embarrassée, dont je compris le sens plus tard. En effet, quand on liquida toutes les revues en Tchécoslovaquie, la nation tout entière le savait, et elle ressentit avec angoisse la portée immense de cet événement. Si en France ou en Angleterre, toutes les revues disparaissaient, personne ne s'en apercevrait, même pas leur éditeur. À Paris, même dans le milieu tout à fait cultivé, on discute pendant les dîners des émissions de télévision et non pas des revues, car la culture a déjà cédé la place. Sa disparition, que nous vécûmes à Prague comme une catastrophe, un choc, une tragédie, on la vit à Paris comme quelque chose de banal et d'insignifiant, d'à peine visible, comme un non-événement. Et il écrivait ça en 1983.
J'ai même écrit à peu près au même moment une phrase qui pourrait m'être reprochée aujourd'hui gravement, je la dis et la confesse, une nation sans revue a un encéphalogramme plat. Et je crois que les revues, effectivement, sont le signe extrême d'une type de culture qui est d'ailleurs, encore une fois, sous cette forme, très français. J'y insiste, parce que le débat, je ne dis pas signe, mais quand même averti sur la fin de ce qui est une grande tradition de la culture française, sous-étudiée, et qui en dit très long sur la francité culturelle.
Bon. Mais alors, en même temps, la Revue des Deux Mondes, sous la direction de Valérie Thoragnan, continue.
J'en suis content, mais ça n'a qu'un rapport absolument lointain. Je crois que si Bulloz, le directeur de la Revue des Deux Mondes, d'il y a 30 ans, et un des fondateurs, lisait aujourd'hui la revue, il n'en reviendrait pas.
Oui, mais alors, justement, là, je vais poser une question plus générale et qui concerne toutes les revues françaises. Quand Kundera parle de revues culturelles et littéraires, il parle de revues qui mettaient justement la littérature, la pensée, la philosophie, la culture au sens ancien du terme, au centre de leurs préoccupations. Et notamment l'actualité littéraire. Or, je constate que ce n'était pas tout à fait le cas du débat. Vous avez consacré des numéros absolument passionnants ou des dossiers à la littérature, à la poésie,
il y a un l'enseignement du français,
à l'enseignement du français. Vous avez publié l'article capital de Lévi-Strauss sur le métier perdu dans la peinture. Sur la poésie, il y a eu un dossier avec une réponse absolument extraordinaire d'Yves Bonnefoy.
Yves Bonnefoy
qui s'insurgeait contre une poésie malarméenne, fermée sur elle-même, gnostique, ici-bas une odeur de cuisine, disait Mallarmé, en écrivant Yves Bonnefoy, car il y a bien plus qu'une analogie entre une nature qui meurt de tous ses maillons brisés dans la grande chaîne des êtres et cette parole qui n'a jamais eu d'autre vœu que de faire des mots une totalité signifiante pour une terre habitable. Et cette analogie dont parle Bonnefoy, l'écologie officielle l'oublie complètement. Mais c'est autre chose. Donc, je me garderai de vous faire un reproche général. Simplement, l'actualité littéraire, l'actualité culturelle n'est pas très présente. C'est-à-dire, il n'y a pas de critique littéraire qui, tous les deux mois ou tous les trois mois, dans le débat, dit voilà l'importance de tel roman. Parce que la presse, si vous voulez, la presse c'est des articles d'une page, ça pourrait être 20 pages sur un roman important. De même, l'actualité cinématographique, de même, les expositions.
Pardonnez-moi Alain.
J'ai tort.
Oui, non, vous n'avez pas tort, mais pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est pour donner l'explication générale de ce problème. Premièrement, dans la maison Gallimard, il y avait une revue qui s'appelle La Nouvelle Revue Française, qui était chargée de faire ce travail, et sur laquelle je ne voulais pas empiéter. Deuxième raison, la plupart des revues ont des comités, ont des rubriques spéciales, ont des chroniques. Et nous, nous étions, si j'ose dire, deux et demi. Marcel Gauchet, moi, et Christophe Romian, dont je tiens à publier le nom dans cette émission, parce qu'il a été notre compagnon, notre conseiller, notre arbitre, et notre dernier juge, si entre nous n'étions pas d'accord entre Marcel et moi.
Puis c'est important, parce que c'est une voix d'Europe centrale, quand même.
Tout à fait. Et un homme extrêmement cultivé, d'une modestie et d'une culture. C'est un vrai savant, un grand savant. Et un homme délicieux. Et qui va, je le dis tout de suite, publier là le premier tome d'une histoire mondiale des musées, qui est un grand livre qui va couvrir toute l'histoire des musées. Bref, je me dis que en dehors du débat, que ce soit Marcel Gauchet, il aura fait l'œuvre de l'avènement de la démocratie en plusieurs volumes, Pomian aura fait l'histoire des musées universels et mondiaux en plusieurs volumes, et il me sera arrivé de faire...
les lieux de mémoire.
Voilà. Allez. Donc, nous n'avions pas les moyens d'avoir de ces chroniques dont vous parlez. Sur la littérature, sur le cinéma, parce que d'abord, nous faisions une revue qui, techniquement, demandait 2 mois de publication chez Gallimard. Et c'était incompressible. Pour avoir des articles du type du débat, il faut déjà les avoir commandés 3 ou 6 mois à l'avance. Le temps que les... Alors, l'idée de faire une chronique de cinéma devient impossible. On peut faire un article, et nous l'avons fait, sur l'ensemble de l'évolution du cinéma français. Mais on peut pas faire un article sur un film qui n'est plus à l'affiche le jour où la revue paraît. Et sur les livres, eh bien, un peu, c'est la même chose. Nous faisions cette revue à l'intérieur d'une maison d'édition. Si nous rendions compte des livres de la maison d'édition, on avait l'air de favoriser notre production et nos propres auteurs auraient redemandé tous des chroniques puisqu'on l'avait fait pour celui le voisin. Et si c'était un livre publié ailleurs, on faisait de la publicité pour un livre qui n'était pas Gallimard. Donc à l'intérieur de la maison d'édition, nous ne pouvions pas faire des chroniques de livres. Donc voilà la réponse,
oui.
Et je me suis permis de vous interrompre,
non, mais vous
parce
avez
que
très,
la réponse...
Vous avez très bien très fait, mais force est de constater que la critique littéraire, au sens où d'ailleurs l'entend Kundera, disparaît plus ou moins en France, si vous voulez, parce que dans les journaux ça va très vite, etc. Et de longs articles sur un livre important, ça manque... aux lecteurs, ça manque évidemment aux auteurs qui, justement, avancent à l'aveugle. Et j'aurais aimé aussi, dans des revues, pas forcément dans le débat, parce que il y avait cette contrainte liée à la NRF, un partage des tâches, mais par exemple, des articles qui portent sur des grandes expositions. Il y a eu l'exposition Tissot, tout récemment. Eh ben, moi, j'adore Tissot, mais je sais pas du tout si c'est un grand peintre. Peut-être pas. Et j'aimerais être éclairé par Jean Clerc ou un autre, quelle est la place de Tissot dans l'histoire de la peinture, dans l'histoire de la beauté. Et ça me manque, parce que si je le lis pas dans le débat, je ne le lirai pas non plus dans commentaires, ni surtout dans Esprit, dont je voudrais rappeler que Claude Habib avait tenu la chronique littéraire, et puis on l'a remercié, comme si la littérature effectivement n'avait plus d'importance, et que ce qui comptait aujourd'hui, c'est la politique, l'économie, l'histoire et la sociologie, qui se partagent, si vous voulez, le gâteau de la culture au détriment des activités que Kundera, justement, prisait particulièrement.
Si vous me permettez d'aller encore plus loin dans votre critique, c'est que la critique littéraire n'était que la pointe avancée d'une tradition d'histoire critique de la littérature. Or, aujourd'hui, vous pouvez très difficilement publier un livre sur Diderot, sur Montaigne, il va y avoir l'anniversaire conjoint de Flaubert et de Baudelaire. Eh bien, je connais les livres qui se font sur ce sujet, on pourra pas les éditer, ils se vendront pas. C'est-à-dire... ça la plus grave. Eh bien, si, il y a personne.
Anniversaire commun, c'est l'anniversaire de quoi? De leur naissance?
De leur mort. Je me souviens plus. Oui. Dans tous les cas, il y a un livre qui les compare ou qui les rapproche.
Ah oui.
Mais.
Bah, il y a eu le procès, ce qui les rapproche, c'est le procès. C'est le procureur Pinard.
Oui, c'est ça. Bon. C'est ça le grave. C'est que même les livres, le premier livre de Starobinski sur Rousseau s'était très bien vendu, Rousseau ou la transparence, et son dernier livre sur Rousseau s'est vendu à très très mal. Vous savez, quand on mesure les chiffres et la critique littéraire aujourd'hui, depuis hélas la mort de notre ami Fumaroli, elle est illustrée par Compagnon, Antoine Compagnon, et c'est à peu près tout. Donc c'est cette haute culture littéraire qui, au bout du compte, provoque l'absence de cette actualité littéraire.
Alors, ce que vous me dites m'évoque, ça n'a apparemment rien à voir, mais je crois quand même qu'il y a un lien, m'évoque la polémique autour de la panthéonisation de Rimbaud et de Verlaine, en couple. Puisqu'ils sont, aux yeux de ceux qui préconisent cette panthéonisation, des symboles de la diversité, ils sont même un couple gay. C'est ce qui est étrange, étant donné la violence de leur rapport. Mais justement, ce n'est pas l'œuvre qui est valorisée, hein, même si on parle de leur génie littéraire, c'est une image qui correspond à notre actualité, si vous voulez, idéologique, la plus présente. Et dans une contre-pétition très intéressante, signée notamment par Jean Clair, par Florence Delay, par Antoine Compagnon, par Alain Borère, on rappelle que d'autres écrivains auraient leur place en Panthéon, pas vraiment Verlaine et Rimbaud, surtout pas pour ces raisons, et puis c'était des vagabonds, c'était des dévergondés, ils n'auraient pas du tout aimé être intégré dans ce qu'André Billy appelait l'école normale des morts. C'était
non,
pas
c'est
pour
Bonaouzou.
Bonaouzou, oui. citant André Billy.
Vous avez raison.
Et donc Bonaouzou, justement, dans Les Dieux de mémoire.
Oui.
C'est dans Les Dieux de mémoire qu'elle. Et il donne d'autres noms. Ils disent mais Peggy aurait sa place, évidemment. Il parle même
Proust.
Proust. Il parle de Poussin. Mais ces noms là. Ils ne branchent pas les gens aujourd'hui. Ils n'ont pas la même force, précisément parce qu'ils ne pénètrent pas l'actualité telle qu'elle est conçue par notre univers médiatique, par la doxa. Et donc, ça, c'est pour ça que je pensais à cette panthéonisation quand vous avez parlé de la difficulté aujourd'hui d'éditer un livre sur Flaubert et Baudelaire.
Oui, enfin, le problème de cette panthéonisation est tout à fait différent, je crois, de l'intérêt pour la littérature, c'est l'intérêt pour l'homosexualité. C'est
ben
pas,
voilà.
En effet. Et ce qu'il y a de curieux dans cette affaire, c'est pas qu'elle soit lancée, c'est qu'elle soit signée par 8 ministres de la culture.
Oui.
8 ministres de la culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont terrorisés. Je pense pas que Christine Bachelot soit même à même, si vous voulez, de penser spontanément à ce couple pour le mettre au Panthéon, simplement. Elle est comme beaucoup d'autres, et elle veut pas avoir des manifestations contre elle comme ministre de la Culture. Et c'est ça qui est drôle dans l'affaire. Vraiment, 8 ministres de la Culture.
Oui.
Et si on pense une minute à la tête du malheureux Rimbaud, si on lui avait renoncé le Panthéon, on...
Et même de Verlaine.
Et même de Verlaine.
Très intéressant que vous utilisiez le mot terroriser, parce que ça nous ramène au début de notre discussion. Si le débat demande un climat de civilité, de courtoisie, l'idée que l'adversaire peut avoir raison, ou en tout cas qu'il a ses raisons et que ses raisons sont légitimes, sont valables. Mais là, tout d'un coup, on réintroduit une certaine terreur. Je parlais tout à l'heure de la 17e chambre, mais il y a une affaire aussi que vous avez suivie de près, l'affaire Grenouillot.
Oui.
Parce qu'il a écrit Les Traites négrières, et c'est l'histoire globale, il a écrit chez vous, dans votre...
Oui, dans ma collection, c'est moi qui l'ai publié.
Il a été cloué au pilori parce que, précisément, il a parlé des traites, les traites internes à l'Afrique et les traites et la traite islamique et la traite arabe, à côté de la traite européenne, dont il n'a pas sous-estimé l'ampleur ni la cruauté, mais c'était déjà une faute commise contre l'esprit dominant, et en plus, il a, dans un entretien au journal du dimanche, il a aggravé son cas en disant que la traite ne devait pas être comparée à la Shoah, les traites négrières ne sont pas des génocides, la traite n'avait pas pour but d'exterminer un peuple, l'esclave était un bien qui avait une valeur marchande qu'on voulait faire travailler le plus possible. Et il s'est retrouvé, à cause de ça, devant les tribunaux. Donc, cette terreur est
non,
là.
Non, il s'est, grâce à Dieu, pas trouvé devant les tribunaux, grâce à nous qui l'avons soutenu et à son avocat. Et à ce qu'on a fait reculer ceux qui voulaient l'accuser. Non, il n'a pas été jusque-là, mais ça a défrayé beaucoup la chronique. Et il y a eu un moment très pénible de pression sur sa famille, sur l'idée de ses enfants, et même de la part de... Il était professeur, je crois, à Nantes ou à Saint-Nazaire à l'époque, je me souviens plus, je crois à Nantes, même de la part des autorités officielles de l'université, ils étaient très embêtés, en fait, et lui demandait de se calmer, alors que c'était un véritable contresens sur le livre qui était dédié à tous les esclaves du monde et qui voulait au contraire faire ressusciter le problème.
Voilà.
Mais le simple fait d'avoir, comme vous dites, parlé des traites intra-noires, africaines, et des traites arabes, autres que la culpabilité blanche, était coupable.
Voilà, était coupable, justement. C'est un bon mot pour terminer, parce qu'en effet, l'extension du domaine de la culpabilité rend le débat très difficile. Merci Pierre Nora. Alors je rappelle le dernier numéro qui vient de sortir chez Gallimard, numéro 210, 40 ans de débat, et c'est un numéro particulièrement passionnant. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Nouvelle naissance », et ce sera une émission de vrai débat conflictuel. Mes invités sont Alice Fernet et Sabine Procoris. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Aurélie Marsay et de François Connac. À la technique aujourd'hui, Benjamin Vignal. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.